pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. La bataille du pouvoir d'achat n'est pas gagnée, mais celle de l'emploi serait-elle en passe de l'être? Le nombre de chômeurs au plus bas depuis près de 10 ans, malgré la crise sans précédent. On analyse les chiffres dans un instant. Un geste fort en direction des pieds noirs d'Algérie. Emmanuel Macron tente de recoller les morceaux 5 ans après avoir qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Dans l'actualité encore, l'heure n'est pas à la 4e dose en France. Le conseil de stratégie vaccinale n'y est pas encore favorable. Les Birmans qui tapent sur des casseroles pour contester la junte seront désormais accusés de haute trahison. Et puis les folles journées de Nantes, 28e édition qui commence ce soir, consacrée à Schubert cette année. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien, ouvrez les EHPAD, c'est peut-être ça la bonne nouvelle derrière ce livre de Victor Castanet qui fait tant parler de lui. Il agit comme un coup de poing dans la figure et au moins permettra-t-il peut-être de faire le grand inventaire dont le secteur a besoin dans ses établissements privés, mais aussi dans le public, puisqu'on y est. Et tout cela, on en parle au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il y a 5 ans, François Hollande avait renoncé à se représenter, faute d'avoir réussi à inverser la courbe du chômage aussi vite qu'il l'avait promis. Un quinquennat plus tard, l'emploi a bel et bien retrouvé des couleurs, malgré la crise. Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi baisse de plus de 12,5% selon les derniers chiffres de Pôle emploi. Bonsoir Claire Chaudière.
Bonsoir.
Alors, est-ce qu'on peut dire que la bataille est en train d'être gagnée?
Eh bien, c'est qu'une bataille, en tout cas, a été gagnée, c'est celle d'éviter que la crise sanitaire ne vienne aggraver et durablement le chômage de base. C'est l'activité partielle, le quoi qu'il en coûte, la mise sous perfusion de l'économie qui a bel et bien fonctionné. Vous le disiez, on est en dessous du niveau de chômage d'avant-crise et particulièrement pour les chômeurs sans aucun emploi, dont le nombre a encore baissé de 200 000 au dernier trimestre 2021. Il y a même désormais un tassement de cet effet vase communicant de pas du tout dans emploi à emploi à temps très partiel. Et puis, cette baisse très forte chez les jeunes, moins 7%, peut-être un effet de la réforme de l'apprentissage, c'est possible. Tout cela fait dire aux porte-parole du gouvernement que l'exécutif, je cite, continue à enrayer le chômage de masse grâce aux réformes. Va falloir, cela dit, attendre encore un peu pour mesurer les éventuels effets directs d'autres mesures prises depuis le début du quinquennat.
Alors, on entend tous ces signaux positifs, mais reste quand même plusieurs sources d'inquiétude.
Oui, ou interrogation en tout cas. D'abord, le niveau d'emploi reste très haut alors même que dans certains secteurs, l'activité n'est pas encore revenue au niveau d'avant-crise. Il y a probablement, suggèrent les économistes, un effet carnet de commandes plein à craquer, l'anticipation d'une croissance à venir. Mais cela veut aussi dire qu'en 2022, cette croissance risque d'être, comme on dit, beaucoup moins riche en emploi. La tendance sera plus en pente douce. Et puis, y a-t-il aujourd'hui des chômeurs, entre guillemets, hors des radars, non inscrits, décrochés du marché du travail après cette crise sanitaire est invisible. Certains signaux pourraient le laisser penser et ce ne serait pas forcément une bonne nouvelle.
Claire Chaudière, merci à vous. Les amortisseurs à la crise, un de plus ce soir pour les travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, dont l'activité est pénalisée par la 5e vague. Ils vont bénéficier d'un allègement de cotisations sociales, notamment.
Emmanuel Macron a donc rouvert une page d'histoire.
Le chef de l'État cherche à apaiser sa relation avec les pieds noirs d'Algérie, 5 ans après avoir qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Ils recevaient aujourd'hui leurs représentants à l'Élysée pour une parole de réconciliation et elle est passée par la reconnaissance de 2 massacres, celui d'Oran en juillet 62 et celui de la rue d'Isly à Alger, une semaine après les accords d'Évian. Ce jour-là, des partisans de l'Algérie française avaient été mitraillés à un barrage tenu par l'armée française, une 50aine de morts, tous civils. Impardonnable, reconnaît aujourd'hui Emmanuel Macron. Un geste fort, attendu par Jean-Félix Valla, le président de la MAFA, la Maison des agriculteurs et des Français d'Afrique du Nord.
Personnellement, j'ai eu mon père et ma mère assassinés, égorgés devant moi par le FLN parce qu'ils représentaient la République. Mon père était maire, ma mère était institutrice et ils ne faisaient que le bien, sauf qu'ils représentaient la France. Donc je crois être en mesure de parler de ce que les pieds noirs ont vécu et qui jusque-là n'avait jamais été mise en lumière. Le discours du président aujourd'hui nous satisfait dans ce chemin de rééquilibrage mémoriel, mais il reste encore beaucoup de choses à régler, notamment l'indemnisation des biens que nous avons perdus et les accords d'Évian qui n'ont jamais été respectés par l'Algérie. Donc beaucoup de chemin reste à faire, mais le pas du rééquilibrage mémoriel d'aujourd'hui est pour nous très important.
Un témoignage recueilli par Simon Le Baron, Emmanuel Macron, qui participait aussi ce soir à une cérémonie organisée par le Congrès juif européen et le CRIF, à la veille de la journée de commémoration des victimes de la Shoah. Jean Castex sera demain à Auschwitz. Entretenir la mémoire et poursuivre le combat contre l'antisémitisme au niveau européen, c'est ce que promet Emmanuel Macron.
Il nous faut non seulement continuer sans relâche à faire vivre la mémoire des victimes, en particulier lorsque certains tentent de la falsifier, mais il nous faut aussi continuer à agir très concrètement, au quotidien. C'est un combat pour ne pas répéter les atrocités du passé. C'est un combat pour la dignité de chacune et de chacun. Ce combat, malheureusement, est redevenu d'actualité, car les vents mauvais ressoufflent, car des discours politiques s'installent, car des falsifications de l'histoire sont là à nouveau, car des actes au quotidien sont là pour nous rappeler que nous n'avons pas fini ce combat.
Et discours d'Emmanuel Macron suivi par Maxence Lambrec. Éric Zemmour en campagne récidive alors qu'il vient d'être condamné pour ses propos sur les mineurs isolés, étrangers. Le candidat d'extrême droite affirme aujourd'hui sur Public Sénat qu'il n'y aurait quasiment plus de délinquance avec l'immigration. Zéro, selon lui. Les délinquants sont immigrés ou enfants d'immigrés. SOS Racisme a immédiatement réagi en annonçant son intention de porter plainte. Bonsoir Élodie Forest.
Bonsoir.
Marine Le Pen, de son côté, zéro polémique, hein, continue de prendre le contre-pied total.
Oui, tout est bon désormais pour surjouer le contraste. Exemple frappant ce matin avec le traditionnel exercice des vœux à la presse où la candidate RN, de façon plutôt inédite, a salué la mission admirable des journalistes, là où Éric Zemmour avait lui chargé violemment il y a quelques jours ses anciens confrères. Marine Le Pen qui a aussi réédité sa promesse d'une campagne sans surenchère ni outrance.
Nous avons définitivement rompu avec les provocations qui ont pu être, je le confesse, parfois le péché de notre famille politique. Ces tentations étaient et sont toujours, je crois, non pas une démonstration d'une force ou d'un dynamisme, mais la preuve d'une certaine immaturité politique. C'est dire si nous nous interdisons d'y revenir pour laisser ceux qui veulent s'y perdre, ceux qui croient trouver dans la brutalité de leur harangue une ivresse de pouvoir factice.
Versus la radicalité d'Éric Zemmour, donc tout misé sur un discours rassembleur. L'union des Français plutôt qu'une anachronique union des droites, martèle aussi Marine Le Pen. Et qu'importe les récents ralliements de trois personnalités RN à Reconquête, ces départs ont permis de clarifier les choses, se targue un cadre, un autre ironise sur les meetings bondés de Zemmour. La dynamique militante, ça ne fait pas une dynamique électorale. ORN, quand la stratégie de l'apaisement confine à la politique de l'autruche.
Élodie Forest. Et voici un sujet qui s'est brusquement imposé dans la campagne. La prise en charge de nos aînés. La direction d'Orpea devra rendre des comptes attendus dans les bureaux de la ministre Brigitte Bourguignon en début de semaine prochaine pour s'expliquer sur les informations révélées par le livre enquête Les Fossoyeurs qui sort aujourd'hui. Ce n'est pas le premier travail d'enquête journalistique à pointer des défaillances dans les EHPAD. Bonsoir Anne Morenstein.
Bonsoir Hélène.
Les plaintes ces dernières années se sont multipliées.
Oui, chaque année, le 3977, la plateforme téléphonique de la Fédération nationale contre les maltraitances des personnes âgées, reçoit environ 30 000 appels. 7 000 déboucheront sur un signalement. Et ce n'est que la partie très émergée de l'iceberg. Selon l'OMS, à peine 5% des maltraitances de personnes âgées font l'objet d'une plainte. Pour les maltraitances en EHPAD, parce qu'il y en a aussi à domicile, hein, bien sûr, la plupart du temps, elles ne sont pas délibérées. Ce sont des maltraitances par manque de moyens qui culpabilisent les personnels. Mais ils ne sont tout simplement pas assez nombreux. En France, on compte en moyenne 62 employés pour 100 résidents. En Allemagne, on est à 10 pour 10. Au Danemark, 12 pour 10. La nuit, c'est encore pire. Seuls 16% des EHPAD ont une infirmière de nuit, présente ou d'astreinte. Ces chiffres, ils sont écrits dans une quinzaine de rapports qui ont été commandés par les différents gouvernements depuis 15 ans, avec une accélération depuis 2018. Le dernier devait d'ailleurs déboucher sur la loi Grand Âge, promise par Emmanuel Macron il y a 3 ans et demi. Elle ne sera pas au programme de ce quinquennat.
Anne Orenstein et Orpea annoncent ce soir la création d'une mission indépendante d'évaluation sur les accusations portées à son encontre dans le livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet. L'hôpital tient le coup, mais les contaminations sont toujours au plus haut. En France, on n'en a pas fini avec l'épidémie de Covid. Plus de 400 000 contaminations encore ces dernières 24 heures. Mais faut-il pour autant envisager un deuxième rappel, une quatrième dose? Plusieurs pays ont déjà franchi le pas. En France, le gouvernement a demandé son avis au Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale qui vient de rendre son avis. Bonsoir Véronique Julia.
Bonsoir Hélène.
Et pour l'instant, il n'y est pas favorable.
Oui, dans le contexte, le Conseil reconnaît que la question de cette quatrième dose est légitime. Pour autant, il estime qu'il n'y a pas de raison de s'affoler. Les plus fragiles, les personnes très immunodéprimées font déjà cette quatrième dose. Pour les autres, les porteurs de comorbidité ou les personnes âgées en particulier, dont le rappel remonte pour certaines au mois de septembre, une nouvelle injection n'est pas conseillée à ce stade. Les experts considèrent en effet que si le vaccin protège de moins en moins bien de l'infection au fil du temps, rien ne prouve en revanche qu'on serait moins bien protégé contre les formes graves. Il semblerait même qu'on le reste tout autant. Or, c'est surtout cette protection-là qu'on vise, hein, celle qui nous évitera d'aller en soins critiques. Par ailleurs, rien ne prouve non plus que la quatrième dose aurait un effet important et durable en termes de production d'anticorps. Bref, son bénéfice à ce stade n'est pas avéré. Le Conseil pense même que cette quatrième dose pourrait constituer un mauvais signal et laisser croire que la troisième dose ne suffit pas. Évidemment, tout ça, c'est ce que pense le Conseil à l'instant T. Son point de vue, précise-t-il, pourra bien sûr être amené à changer si de nouvelles études amènent à penser que cette quatrième dose est nécessaire ou si le nombre des hospitalisations de personnes âgées augmente significativement dans les jours et les semaines qui viennent.
Véronique, Julia.
Les interrogatoires des accusés se suivent et ne se ressemblent pas au procès des attentats du 13 novembre.
Hier, le Pakistanais Mohamed Ousmane a tenté de minimiser son rôle maladroitement. Et aujourd'hui, Mohamed Bakali, déjà condamné à 25 ans de réclusion au procès de l'attentat du Talis, a préféré garder le silence. Charlotte Spiret, bonsoir.
Bonsoir.
C'est vous qui suivez l'audience aujourd'hui, Charlotte. Un mutisme total face à une longue série de questions.
Je ne suis pas en capacité de vous répondre. Avant même la première question de la cour, Mohamed Bakali s'est levé dans le box, crâne rasé, barbe, sweat clair. Il s'explique posément. Comme vous savez, j'ai eu un autre procès. J'y étais avec beaucoup d'espoir. Je me suis expliqué longuement et j'ai eu une condamnation à laquelle je ne m'attendais pas. En l'occurrence, 25 ans de réclusion, malgré l'absence de preuves, insiste-t-il. Quoi que je dise, ma parole n'a pas de valeur. Maintenant, je n'ai plus la force de me battre. Mohamed Bakali se rassied dans le box. Il ne dira plus un mot. Le président tente quand même. On avait besoin d'explications. C'est quand même un peu dommage, monsieur Bakali. Vous ne changez pas d'avis ? L'accusé reste assis, les bras croisés. Puis les avocats de partie civile à leur tour. Les victimes ont le droit d'entendre ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait, monsieur, plaide maître Chemla. Vous avez peur, monsieur Bakali ? Interroge maître Seban. Long silence. Le seul que l'on entendra est son frère aîné venu d'Angleterre où il vit avec ses quatre enfants, là où au supermarché, la caissière peut porter le voile intégral sans que cela ne gêne personne, explique-t-il. Contrairement à la France où dès qu'on porte la barbe, on est des terroristes. Et de rejoindre son frère, de toute façon, il est déjà jugé.
Charlotte Piret en direct du Palais de Justice sur l'île de la Cité à Paris avec Julien Girard. La justice à l'os, nouveau témoignage du manque de moyens et de bras à l'audience de rentrée du tribunal judiciaire de Lyon aujourd'hui, troisième juridiction nationale. Le président Michael Janas confirme être à un point de rupture avec des journées qui se prolongent de plus en plus tard, de plus en plus souvent.
Alors oui, nous avons un nombre d'audiences de nuit qui augmente, ça fait une audience sur quatre presque, qui termine après 21h, et nous avons 5% des audiences qui terminent après minuit, et ce sont des affaires où il y a des victimes, des faits graves, votre liberté est en jeu, et la semaine dernière, une audience est terminée à 5h du matin, après avoir commencé à 14h. Prenons une audience de juge d'affaires familiales, si vous avez 15 dossiers dans la matinée, la personne qui est là, elle joue la garde de ses enfants, elle joue sa pension alimentaire, elle a envie de parler au juge, mais le juge, s'il a 15 dossiers à traiter dans la matinée, et c'est pas propre au tribunal judiciaire de Lyon, c'est dans tous les tribunaux, eh bien lui, il va pouvoir consacrer un temps d'écoute qui va forcément être limité. On est 112 juges, on est à 3e juridiction nationale, on devrait être 226. C'est indispensable que nous soyons une justice qui soit dans les standards européens. Derrière, c'est la démocratie qui est en jeu. La justice est un pied de la démocratie.
Le président du tribunal de Lyon avec Mathilde Imberti. EDF fait bloc et massivement contre le gouvernement et sa demande de vendre davantage d'électricité à bas prix à ses concurrents. Plus de 42% des salariés de l'entreprise étaient en grève aujourd'hui. Et au rayon charcuterie, une bataille oppose depuis des mois maintenant les professionnels du secteur et l'ONG Foodwatch, l'application Yuka et la Ligue contre le cancer au sujet des nitrites qui donnent sa couleur rose au jambon, soupçonné aussi d'être cancérogène. La proposition de loi d'un député Modem pour les interdire était examinée aujourd'hui à l'Assemblée, mais visiblement ça ne va pas se faire tout de suite. Bonsoir Guillaume Dominguez.
Bonsoir Hélène.
L'exécutif a déposé 3 amendements pour repousser sa mise en application.
Oui, le gouvernement attend en réalité le rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, sur les dangers de ces additifs. Des conclusions qui ne seront pas publiées avant l'été prochain. Pour Karine Jacquemart, directrice de l'association Foodwatch, cette nouvelle expertise est une perte de temps.
Il y a d'ores et déjà plusieurs études scientifiques et notamment des études de l'Organisation mondiale de la santé qui pointent du doigt les risques pour la santé de ces additifs. Donc ça, c'est connu. Le gouvernement s'abrite derrière l'attente d'un rapport de l'ANSES qui apportera des éléments qui seront certainement utiles, mais qui ne sont pas indispensables et nécessaires pour prendre une décision politique.
Il faudra ensuite attendre juin 2023 pour connaître l'action du gouvernement. Les amendements prévoient une baisse progressive des doses de nitrites, avec exception pour certains types d'aliments. La Ligue nationale contre le cancer s'inquiète d'une telle feuille de route. Elle pourrait être dangereuse pour la santé du grand public. Emmanuel Ricard est porte-parole de la Ligue.
Plus on retarde la mise en place des mesures d'interdiction et de suppression, plus les gens vont continuer à s'intoxiquer. Et donc, il y a des gens qui vont récupérer des cancers simplement parce qu'ils consomment des produits qui ne devraient pas être en circulation.
Le lobby des charcutiers a reconnu publiquement que 1200 personnes seraient atteintes tous les ans d'un cancer à cause des nitrites. Selon la Ligue nationale contre le cancer, ce chiffre tendrait vers les 4000 malades chaque année.
Explication signée Guillaume Dominguez.
Taper sur des casseroles est désormais un crime de haute trahison en Birmanie.
Battre le métal pour contester le pouvoir de la junte, c'est ainsi que le peuple birman manifeste ces derniers mois contre la reprise en main du pays par les militaires il y a quasiment un an. Et le nouveau régime n'entend pas laisser faire. Ce sera désormais considéré comme un crime de haute trahison, passible de la peine de mort dans le pays. Mais certains Birmans ne comptent pas renoncer pour autant. C'est le reportage à Rangoon de Juliette Verlin.
Même si Motwe rentre chez lui parfois trop tard le soir, il est ravi que ses voisins continuent à taper sur leur casserole à 20h, comme depuis le début de la révolution il y a un an.
À Sanchong, les gens continuent à taper sur des pots et des casseroles parce que c'est un quartier très politisé.
La tradition révolutionnaire, qui remonte à des décennies, est l'un des premiers actes de protestation à avoir été lancé par la population quelques jours après le coup d'État. Dans tout le pays, à 20h, les familles sortaient sur leur balcon ou devant leur maison et tapaient sur des pots et des casseroles pendant plusieurs minutes. La tradition s'est essoufflée lorsque l'armée a commencé à arrêter et à violenter les habitants, mais dans le quartier de Sanchong, à Rangoon, on trouve encore quelques poches de résistance.
Leur nouvelle idée, c'est de se cacher dans un coin sombre et de taper sur les pots et casseroles, comme ça la police ne peut pas voir qui ils sont.
Pour Ouba, un artiste qui récupère les pots et casseroles de manifestants assassinés pour leur rendre hommage, l'annonce de punition de haute trahison à quelques jours du 1er février est révélatrice, mais ne découragera pas forcément la population.
Les habitants vont sûrement se regarder les uns les autres et si quelqu'un commence à taper, alors tout le monde suivra.
À l'approche du 1er février, le pays entier se prépare pour une journée de tension et d'incertitude. Juliette Verlin, Rangoon, France Inter.
On vous en parlait ici même il y a quelques jours, c'est au mastodonte suisse Arbazel que le Grand Palais a décidé de confier l'organisation de la Grande Foire Internationale d'Art Contemporain de l'Automne à Paris. C'en est donc fini de la FIAC qui existait depuis 47 ans. La musique classique, elle, a rendez-vous à Nantes jusqu'à dimanche. C'est la folle journée qui a été maintenue dans un format un tout petit peu réduit du fait de l'épidémie. Stéphane Capron est sur place.
Le chœur estonien Vox Clamantis est l'une des rares formations étrangères présentes à cette folle journée. Denis Caille, le directeur général de la Cité des Congrès de Nantes, a dû reconfigurer le festival.
C'est sans doute le seul festival en ce moment qui est en capacité de se tenir au niveau national. Dans des conditions parfaitement organisées, régulées, les publics vont être gérés de l'entrée à la sortie, il n'y aura pas de croisement de flux, tout est sanitairement très respecté.
190 concerts sont programmés au lieu des 220 prévus. La grande scène géante n'a pas pu être montée, mais les artistes sont prêts. Le violoncelliste Louis Rode et la pianiste Paloma Quider du trio Karenine attendent avec impatience le public.
Parce qu'au dernier moment, on se demandait si ça allait pouvoir avoir lieu. Et donc là, le fait d'être là, il y a une forme de jubilation à la fois à retrouver nos collègues et puis à voir que le public est là.
Pour nous, c'est incroyable d'avoir autant de concerts au même endroit.
Et pour la violoniste Charlotte Julliard, Schubert colle parfaitement à l'air du temps.
On a tous été forcés, je pense, de voyager dans notre intériorité. Et ça, c'est le thème schubertien par excellence.
Il n'y aura pas de concert pour les scolaires cette année. Une journée spéciale leur sera réservée le 13 juin.
La folle journée, c'est jusqu'à dimanche à Nantes. Et le directeur du festival sera l'invité demain du 13-14 de Bruno Duvic. Belle affiche aussi pour la 47e cérémonie des Césars. 15 nominations pour l'adaptation du roman de Balzac, Les Illusions Perdues de Xavier Giannoli. Vous retrouvez tout le reste des nominés sur franceinter.fr.
Dénommés, merci beaucoup. Pardon, bah voilà. Merci beaucoup. Hélène Philly, à demain. Allez, on reste ensemble comme chaque soir avec le téléphone sonne. Ouvrez les EHPAD, c'est le thème dans un tout petit instant. L'œil sur la météo de demain, juste avant.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Sébastien Léas, encore beaucoup de grisailles sur le nord du pays.
Oui, on garde beaucoup d'humidité dans les très basses couches de l'atmosphère, ce qui va à nouveau se traduire par des nuages bas étendus et des brouillards localement givrants sur une large moitié nord. En début de journée, ces grisailles s'étendront aussi vers les plaines du sud-ouest. Alors le relief émergera de la couche nuageuse, on trouvera donc du soleil en allant en montagne. Les régions de la Méditerranée se réveilleront sous le soleil. Quelques plaques de nuages bas pourront aussi border le littoral de la Provence et le sud-ouest de la Corse. Sur le sud de l'Alsace, en Franche-Comté, en Nouvelle-Aquitaine et vers le midi toulousain, le ciel va se dégager demain après-midi, hormis près de la vallée de la Garonne. En revanche, plus au nord et dans le Val-de-Saône, pas d'évolution à attendre, la couche nuageuse restera compacte. Au nord de la Seine, deux petites pluies faibles circuleront, surtout l'après-midi, pouvant même générer du verglas sur la Champagne-Ardenne.
Et température toujours froide.
Oui, c'est surtout cette nuit qu'elle sera froide avec des gelées quasi généralisées, 0 degré à Perpignan, moins 1 degré à Aix-en-Provence et à Vannes, moins 3 degrés pour Bourges et Strasbourg, et moins 4 degrés à Limoges, Dijon et Mont-de-Marsan. L'après-midi, la fraîcheur sera surtout marquée sous les grisailles persistantes. Seulement 2 degrés à Mâcon, 3 degrés à Poitiers et à Nancy, 4 degrés à Agen. On attend 7 degrés pour Grenoble, Toulouse et Paris, 9 degrés à Quimper, Le Havre et Amiens, 10 degrés pour Dunkerque et pour Biarritz et tout de même 14 degrés à Foix, Draguignan, Narbonne et à Calvi.
Sébastien Léas de Météo France. Merci beaucoup Sébastien.